BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business et les experts. Nouvel horaire, 9h30, 10h30. Tous les jours sur l'antenne, en direct, bien évidemment, on va parler des marchés qui s'envolent de record en record. Le monde s'embrase et les marchés regardent ailleurs. Jean-Pierre Petit, les puces notamment, poussent les indices ce matin. Intel et Samsung discuteraient avec Apple. Ça fait flamber Samsung, là je vois. On est à plus 14%, plus de plus 14%. Ce matin, Samsung qui a franchi la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Les marchés sont-ils aveugles à la grande marge du monde?
Non, je ne pense pas. Ils regardent la réalité. La réalité, alors, il faut quand même savoir que plus de 40% du SP500, qui est l'indice phare mondial, est composé de valeurs tech, au sens large du terme. C'est-à-dire à la fois les semi-conducteurs, le hardware, le software, les services communication, médias.
40%, hein, donc 40, on a
même plus que ça.
Près de la moitié.
42, 43, absolument. Et alors, les marchés ont atteint un point bas après quand même l'entame de la guerre d'Iran le 30 mars. Ils ont quand même baissé entre le 28 février et le 30 mars. Mais ils n'ont pas baissé énormément par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper. Et surtout, depuis, ils ont rebondi. Alors, le S&P 500, j'ai pas regardé la cote hier, mais ça devait faire environ du 9%. Et l'essentiel des 9% est dû à la tech. Quand je dis l'essentiel, c'est la quasi-totalité. Parce que si on regarde le S&P 500 hors tech, c'est quasi, enfin, c'est presque autour de zéro. Hein, voilà. J'ai pas regardé le cours d'hier, mais donc c'est la tech. Mais il faut savoir que la tech baissait depuis fin octobre par rapport au point bas du 30 mars, alors que le résultat était excellent. Ce qui fait que la valorisation, n'oublions pas que la valorisation, c'est cours sur bénéfice.
Oui.
Donc la valorisation s'est effondrée, en fait. Hein. Et donc, les investisseurs, voyant que la tech n'était pas trop touchée, et puis voyant que...
Donc, il y avait des affaires à faire, c'est ça que vous dites?
Il y avait des affaires à faire à partir du 30 mars, en fait, hein, fondamentalement, puisque la tech a largement surperformé l'indice général et surtout l'ensemble des indices de la planète. Ah, oui. Les résultats ont été très bons. Alors, on se méfie de ceci. Il y a toujours des doutes, quand même. Hein. C'est pour ça que ça régule bien le marché. Il y a des doutes sur la dette pour Oracle. Il y a des doutes sur le flux d'investissement, parce que les perspectives d'investissement explosent à la hausse. Qui va financer ça? Il y a toujours les doutes sur la monétisation d'OpenAI. Il y a des doutes sur ceci, sur la consommation d'électricité. Il y a des doutes sur la circularité, c'est-à-dire sur les liens capitalistiques et les liens financiers qu'il y a entre tous les acteurs de l'IA. Enfin bon, oui. Bref, il y a toujours des doutes qui régulent un peu le truc. Sur Meta, par exemple, le discours de Zuckerberg n'a pas tellement convaincu. Il faut dire que en termes de cash flow, c'est pas terrible. Donc c'est sanctionné par rapport aux autres, mais les autres ont dégagé très bons résultats. Donc ils regardent la réalité.
La confiance, beaucoup de doutes, mais pourtant la confiance surpasse tout ça.
Voilà, avec une valorisation qui était moins bien. Alors attention quand même, hein, parce que perspective de bénéfice par action pour l'ensemble de la tech cette année, quand même c'est 42%. C'est supérieur à l'année dernière quand même. Donc faut un petit peu faire gaffe. Fallait jouer le rebond technique. Là, je conseillerais aux investisseurs pour ceux qui l'ont joué, bien évidemment, d'alléger un peu, de regarder un peu les trucs.
Oui. Mais voilà. Donc, on se calme. Enfin, ça tient. Parce que tout le monde pariait quand même sur un conflit court au Moyen-Orient, fin avril. Bon, on voit que ça continue. Encore ce matin, on apprend qu'un navire de CMA CGM, qui est par ailleurs propriétaire du groupe BFM, a été victime d'une attaque. Plusieurs blessés sur le navire, donc on voit que le conflit est quand même loin d'être terminé. Que pensez-vous, Roland Gillet, de ces marchés qui vont de record en record?
Bah d'abord, il faut distinguer, et vous l'avez très bien fait, la tech du marché. Le marché ne bat des records à cause de la tech notamment. Pas que, mais notamment. Et aussi des sociétés pétrolières, notamment aux États-Unis, qui se portent évidemment pour elles, pour le moment, très très bien. Mais globalement, ce que les investisseurs doivent voir, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, qui annonce quelque chose et qui le réalise.
Oui.
Dans la tech, c'est ce qui se passe depuis déjà longtemps. Et la rupture viendra le jour, et vous le voyez bien d'ailleurs que les marchés sanctionnent très fort celles qui ne sont pas dans ce cas-là, et pas d'ailleurs que dans la tech aujourd'hui, c'est ceux qui démontrent que une fois on leur pardonne un petit peu, la deuxième fois, alors on leur pardonne plus du tout, c'est d'être en dessous des attentes. Ici,
oui.
Pour le moment, c'est l'effet contraire.
Combien les sanctions sont violentes.
Combien de gens pariaient, en dehors même de la crise iranienne, que les résultats seraient pour Apple ceux qui sont parlons même pas de ceux d'Alphabet. Ici, c'est vraiment autre chose, quoi. On voit qu'il y a quand même
40 milliards en intérêts.
Oui, débit, et n'oubliez pas non plus une Alphabet. Chose. Vous l'avez rappelé, c'est le rapport court-bénéfice qui est important quand on regarde de façon très, je vais dire, sommaire les marchés. Mais quand on les regarde, c'est l'actualisation
des profits à venir, bien
donc,
sûr.
Donc clairement des sociétés futures. De forte croissance, l'évolution des taux d'intérêt liés éventuellement à l'inflation. Et c'est ça aussi qui a créé, avec tout le monde était sur le volet maintenant, les taux d'intérêt vont remonter partout. Et c'est encore le risque d'ailleurs, par rapport aux banquiers centraux qui eux-mêmes s'interrogent sur, ils vont les laisser, ils vont les remonter, ils vont devoir les baisser, enfin soit. Mais les taux longs ont quand même monté.
Oui.
Et n'oubliez pas non plus une chose, si on regarde l'Europe par rapport aux États-Unis, regardez où est le taux à 10 ans allemand, aujourd'hui à autour de 3%. Il est, aux États-Unis, on est autour de 4,5, je vais dire.
Oui, donc, et hier donc, ou avant-hier, on était proche des 5% aussi.
Clairement, ça veut dire qu'ils partent avec, je vais dire, un handicap lié à des taux d'intérêt plus élevés et des anticipations d'inflation, étant donné les tarifs et ainsi de suite de Trump, qui créent l'incertitude au niveau de ce qui va se passer. Mais malgré les taux, sur la tech, le fait que maintenant, effectivement, on voit qu'il va y avoir quelqu'un comme Warsh, par exemple, ça clairement jouer aussi un rôle. Ce n'est pas un pantin
le qui a été futur président de la Réserve fédérale américaine.
On peut penser qu'il va faire les choses convenablement. Et je répète, de toute façon, même s'il avait été autrement, pour le moment, il y a déjà des gens qui votent plutôt pour la baisse des taux, mais ils sont largement en nombre inférieur à ce qu'il faut comme majorité pour les faire baisser. Et donc, on voit qu'on confie encore la Banque centrale, pour le moment aux États-Unis, la direction à des gens qui ont montré par le passé...
Des gens sérieux.
Oui. Et ça
pour le dire simplement.
Ça a donné aussi un résultat. Et je pense que ça...
Indépendant
aussi, beaucoup. Ben, c'est ce qu'il dit, en tous les cas. Hein. Alors, on sait qui l'a nommé, mais je pense aussi qu'il a lui, pour le coup, une vraie réputation à tenir. Et ce n'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, vous avez vu.
Il rassure les marchés, en tout cas.
Oui. Et il connaît les marchés. Et il connaît la crise. Et il a bien géré un moment de la crise. Alors, je ne dis pas que c'est la solution. Je dis juste que tout ça explique pourquoi, aujourd'hui, la tech se porte très bien.
André Le Scroug, Pietri, que pensez-vous de ces marchés, de cette tech qui vole de record en record?
Ce qui est assez frappant, c'est que pendant longtemps, on a considéré la tech comme plutôt dans la partie portefeuille dynamique par rapport aux actions un peu plus défensives. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que la tech, d'abord, elle profite de cette immense révolution de l'IA. Et j'entendais aussi depuis 1, 2, 3 mois, tout le monde prédisait, ça y est, on est dans la bulle de l'IA. Oui, il y a peut-être de la circularité, des choses un
peu inquiétantes. On attend les revenus des boîtes de l'IA, c'est pour ça, c'est comment...
Sauf que quand même, tout le monde aujourd'hui est en train de voir la révolution dans les organisations. Et alors, peut-être que ça ne se transmet pas encore en termes de productivité, ce qu'on avait vu pendant longtemps également.
Paradoxe de Solow.
Voilà, mais on voit que c'est en train d'être une... C'est pas une évolution, c'est une révolution, ça c'est sûr. Et ce qui est donc frappant, c'est qu'en fait, on se rend compte que la tech a aussi un aspect très défensif, puisqu'aujourd'hui, la tech joue sur le côté... Ouais. Puce souveraine, on parle de Samsung, on parle de Nvidia, on parle de TSMC. Elle joue également sur l'aspect énergie. Donc, ça sera qui fera des modèles beaucoup plus frugaux, moins. C'est ça, quand même, aujourd'hui, le critère. Et évidemment, aujourd'hui, la tech est massivement utilisée. On l'a bien vu avec l'offensive américaine au début, fin février, projet Maven. Elle a utilisé dans le monde de la défense, les drones, les satellites, etc. Donc, en fait, ils profitent aussi massivement de cet aspect défense. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des valeurs de performance et c'est des valeurs défensives? En fait, je pense qu'elles sont un peu les deux, ce qui explique aujourd'hui que, finalement, la crise ne semble pas les toucher. Je pense que ce qui devrait vraiment nous alerter, c'est que quand on regarde, quand on fait un calcul, alors je compare flux et stock, mais la capitalisation boursière de Nvidia, plus de TSMC, plus de Samsung, c'est aujourd'hui plus que le PIB allemand.
Oui.
Et donc la déconnexion, ce qui devrait nous alerter, cette espèce d'immense déconnexion entre l'économie réelle européenne complètement sluggish, qui est complètement un peu dans les choux, qui n'avance pas, et une tech. Et donc en fait, l'écart est en train d'augmenter de manière prodigieuse, l'écart de prospérité pour chacun de nous.
C'est ce qui s'appelle une bulle, non ?
Ouais. Alors, une bulle ?
Cet écart entre l'économie réelle et
l'écart entre l'Europe et la tech américaine,
c'est pas ça.
Je voulais pas dire que c'était une bulle. Hein. Je voulais dire que c'était l'écart entre l'Europe.
Non, mais moi je vous pose la question. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle une bulle? Alors c'est vrai qu'on a les États-Unis d'un côté où la croissance est double et l'Europe.
Une bulle d'un sommet de bulles. Moi j'ai beaucoup étudié ça. J'ai même écrit des bouquins là-dessus. C'est pas la même chose. Une bulle peut durer très longtemps. Irving Fisher annonce une bulle aux États-Unis à l'été 1926. et elle n'éclate seulement que le 3 septembre 1929. Donc il s'est gouré pendant un peu plus de trois ans. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a regretté toute sa vie parce qu'après, il a pris la porte de Saloum. Enfin bon, je reviens pas là-dedans. On n'est pas sur un sommet de bulles. Moi, j'ai un modèle à partir de 10 critères à pondération fixe qui caractérise les sommets de bulles historiques de 29, de 2000, du Nikkei en 89. Et aujourd'hui, on n'est pas à 100%. Voilà. Voilà. On est assez.
On est où?
Ah.
On est où, cher Jean-Pierre Petit?
73%, pour être tout à fait.
D'accord.
Donc, il faut un peu faire gaffe.
Ça change quand même. Oui, c'est ça, on est dans la zone.
Voilà, il faut pour moi. Alors, attention quand même sur la résistance du marché action américain. Ils regardent quand même la macro américaine quand même, hein, parce que si l'économie américaine rentrait en récession, il y aurait quand même aussi un petit problème pour la tech. Or, l'économie américaine au premier trimestre, 2% rythme annualisé, elle va un peu souffrir, mais très modérément. Nous, on est à 0,6. On est au premier trimestre, en zone euro, on est à 0,6. On a une réserve fédérale, allez, qu'on va qualifier de pragmatique, hein, en un mot, alors que la BCE s'excite pour essayer de nous faire penser qu'il faut absolument remonter les taux au mois de juin. Hein, donc, alors qu'on est, on est proche de la récession. Nous, on est très, plus proche, plus nettement plus proche de la récession que les États-Unis. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc, tant que la. Parce que la productivité est bonne hein, quand même aux États-Unis si tu lisses un peu. Hein, donc c'est ça aussi qui donne confiance. C'est pas seulement les résultats de la tech ou la valorisation. C'est aussi que l'environnement global macro fonctionne, résiste plutôt bien aux États-Unis, beaucoup mieux qu'en Europe.
Bon, ça me donne un contexte particulier pour le futur gouverneur de la Banque de France. Hier, Emmanuel Macron a officialisé la nomination, en tout cas la désignation d'Emmanuel Moulin comme candidat à la succession de François Villeroy de Gallo à la Banque de France. Alors, c'est pas fait. Le gouverneur l'impétrant doit passer devant la commission, une commission ad hoc, en tout cas, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, il doit recueillir l'accord à 3/5 des parlementaires. Simplement, je continue avec vous, Jean-Pierre. Vous venez de décrire un environnement assez particulier. Quels vont être les défis pour ce futur gouverneur de la Banque de France?
Ben justement, on ne sait pas. Et c'est ça qui est dommageable.
Il y a l'incertitude.
Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'absence de débat. On nomme un type, mais on ne sait même pas ce qu'il doit faire. Quelle est sa doctrine? J'aimerais bien savoir, par exemple. Par exemple, j'aimerais bien qu'il nous dise, Monsieur Moulin, je le connais pas, hein, donc je fais pas de procès d'intention, qu'il nous dise comment on va tenir au cours des prochaines années avec les taux réels tels qu'ils sont aujourd'hui pour assurer la transition énergétique, la transition numérique, la transition géopolitique, les dépenses de défense qui vont exploser, la transition démographique, puisque le vieillissement. Comment on fait?
Est-ce qu'il y a un système d'audition? Pardon.
Oui, il y a un système d'audition. Il doit être validé par l'Assemblée.
Deux commissions, Assemblée nationale et.
Mais non, mais il n'y a pas de.
Sur le guet des parlementaires.
Le problème, c'est que dans les auditions, c'est pas ça qu'on lui demande. Tu vois, il y a le niveau.
C'est aussi très politique. Alors, l'enjeu pour Emmanuel Moulin, qui est en campagne dorénavant, c'est que, évidemment, il était secrétaire général de l'Élysée jusqu'à la semaine dernière.
C'est ça le sujet.
Emmanuel Macron a déjà nommé Monsieur Ferrand au Conseil constitutionnel. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes et que donc oppositions...
C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire on nomme les...
Sur les doigts.
C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on nomme les copains, les gens qui ont travaillé pour vous. On est dans la sphère politico-administrative. Alors, qui s'auto-promeut, qui s'auto...
Ben voilà, c'est toujours Moulin la même. Est quand même issu de non, Bercy, mais... a été le directeur, directeur de cabinet de Christine Lagarde.
Mais peu importe, mais ça garantit pas là. Jean-Claude Trichet a été directeur du Trésor, gouverneur de la Banque de France.
Quelle était sa politique? Directeur du Trésor.
Quelle a été sa politique monétaire en 2008 et en 2011? C'est une catastrophe. Les taux réels sont montés, l'euro est monté à un niveau totalement délirant et ça a accéléré la désindustrialisation. Vous croyez que c'est le diplôme? Vous croyez que c'est la formation initiale?
Mais que c'est peut-être 25 ou 30 ans de carrière dans.
Mais c'est pas une garantie parce que ces gens-là ne risquent rien. Ces gens-là ne risquent rien, ils sont dans des casques, comme sous la monarchie, où c'était le roi qui nommait. Non,
c'est toujours moi le plus véhément, mais je vois que Jean-Pierre est en forme ce matin.
Mais c'est la réalité.
La question que vous posiez tout à l'heure sur l'aspect démocratique, ça c'est typiquement un renouvellement qui est absolument indispensable. On passe son temps à entendre des ministres qui disent il faut que les Français comprennent, etc. Là, on a une opportunité pour une nomination, d'avoir quelqu'un qui va présenter quasiment une feuille de route, puisqu'en fait, pauvre de lui, parce qu'il arrive dans une situation épouvantable. Plus de 5% de déficit, une charge de la dette qui devient insoutenable, une pression politique, parce que ça c'est la bonne nouvelle, enfin je crois, dans la population française, le sujet de la dette est devenu un sujet majeur.
Il semblerait.
Ça c'est quand même une nouveauté, donc il va avoir une pression terrible. ça, c'est l'occasion ou jamais. Il peut même lui-même, de lui-même, ça serait, là pour le coup, il frapperait un grand coup, de proposer que, voilà, il expose sa vision. Effectivement, la crainte que j'ai comme Jean-Pierre, c'est que peut-être qu'il n'en a pas, mais qu'on pense juste que parce qu'il a fait tout ça dans le passé,
qu'il a été à des postes, et donc ça le qualifie. Mais a-t-on fait
Mais pardon Jean-Pierre, quand on a une expérience professionnelle, vous avez suivi la macroéconomie.
Est-ce qu'il a réussi ne regarde pas la suite
vous
des postes.
Donc, non, mais est-ce qu'il a réussi légitimité à parler
Raphaël,
du sujet.
Raphaël, est-ce qu'il a réussi dans chacun de ses postes? C'est ça que moi j'aimerais savoir. C'est pas à aligner les postes, parce que quand on est inspecteur des finances, tu le sais bien, on a accès à des postes. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France, depuis...
Il est administrateur civil, en l'occurrence, mais pas inspecteur des finances.
Le plus souvent, il sort de l'inspection pour la Banque de France. Les grands corps de l'État ont accès à des postes systématiques. Donc, Raphaël, ce qui est important, c'est son bilan. Mais je fais pas de procès d'intention, je le connais pas. Mais regardons son bilan, déjà. Et puis surtout, regardons son projet. Ça, t'as tout à fait raison. Quel est son projet? Parce qu'on a l'impression...
Les auditions vont être l'occasion de le savoir, de le développer.
On l'a jamais vu ça. On l'a jamais vu parce qu'à l'Assemblée nationale, je suis désolé.
Oui, bien sûr, les auditions sont publiques et en direct, donc vous les regarderez et ce sera très probablement intéressant.
On verra si les parlementaires sont à la hauteur.
C'est selon vous, mes experts là autour de la table, quels sont les défis du prochain gouverneur? On reviendra sur la dernière lettre.
Son défi,
au président de la République de François Villeroy de Gallo,
où
il utilise des mots très intéressants, étonnants. Pour un gouverneur de banque centrale, pour un banquier central, il parle notamment de gérontocratie. On en parlera dans quelques minutes.
C'est un débat facile, ça.
Roland Gillet, l'œil extérieur à la France, peut-être moins passionné, dépassionné autour de la nomination du gouverneur de la Banque de France.
Ce jeune pays qu'est la Belgique.
Oui, ce jeune pays qu'est la Belgique. Sur BFM Business, on arrive à se passionner comme ça pour les nominations d'un gouverneur.
Oui.
Pour un banquier central, j'aime beaucoup. On vous écoute, Roland.
Autant le rôle est important, bien sûr, le rôle du banquier central dans chacun des pays de la zone euro, mais autant quand même les décisions importantes au niveau de la politique monétaire se prennent par un conseil de gouverneurs qui se réunit à Francfort au sein de la BCE. Donc, je ne voudrais pas doucher les ardeurs, c'est les grosses décisions. Il faudra avoir un consensus au niveau des gouverneurs lors des réunions de la banque, en tous les cas au niveau par exemple des taux directeurs. Alors, il n'y a pas que les taux directeurs évidemment, heureusement, dans les compétences d'une banque nationale, mais aujourd'hui on sait quand même que les grosses compétences sont à Francfort, donc il faut quand même le rappeler. Donc même vous diriez la France a décidé que, elle va dire, le gouverneur a dit que sur l'évolution des taux d'intérêt, il faudra convaincre les autres collègues. Et les problèmes d'inflation ne sont pas tout à fait les mêmes en France qu'ailleurs. Les problèmes de déficit ne sont pas les mêmes. Je viens d'un autre grand pays, l'Espagne, ne sont plus du tout les mêmes en Espagne
qu'ils sont ici. Ils ont fait le boulot.
Donc clairement, cette difficulté d'arriver à avoir une politique coordonnée dans des États qui ne le sont pas nécessairement en termes de politique économique, de déficit public, de la manière dont ils les adressent, va toujours être un problème. Quand on fixe les taux directeurs, on les fixe pour toute la zone euro. Et donc ici, c'est sûr que c'est très important, et vous rappelez la manière dont ça doit être transparent, la manière dont on doit vérifier les capacités. Moi, je pense quand même que c'est important aussi, bien sûr, de voir non pas que les diplômes, mais voir également si la personne a à chaque fois eu, ou plus, le plus souvent, des succès, et de voir aussi ce qu'elle souhaite faire au niveau de ce qui sont encore les prérogatives de chaque banquier central dans son pays. Mais sur les points importants, quand vous parliez de taux d'intérêt ou de taux d'intérêt réel, et ainsi de suite, c'est des initiatives qui ne peuvent être faites qu'entre banquiers centraux responsables, ce qu'ils le sont normalement, au niveau du Conseil des gouverneurs, que les choses soient claires.
Oui, mais
aujourd'hui, si demain, étant donné la position de la France, qui s'est un peu décrédibilisée, j'entends, par rapport aux autres pays...
Oui, en termes de finances publiques.
Bien sûr, je ne suis pas sûr que c'est elle qui va pouvoir être le leader là-dessus, alors qu'elle fasse pression vu la taille de la France. Heureusement, la France est un grand pays.
Mais
c'est ça qu'il va voir, c'est comment est-ce qu'on rend à la France, via aussi son gouverneur, une action qui montre qu'on ne sera pas dans le volet qui a déçu beaucoup, c'est-à-dire de dire on a bien vu les déficits, mais on sera meilleur l'année suivante en voyant qu'ils dérapent encore. Et ça, c'est des éléments...
Promis, demain, on fera le boulot.
Et donc, je vous dis, et j'ajoute quand même que dans mon pays, on a eu aussi cette tendance, et par moments, vu la taille, la petitesse de notre pays, on était obligés, nous, de rectifier vite, parce que la pression qui s'exerce sur un petit pays de l'Europe n'est pas la même que sur un grand qui dit, à un moment donné, c'est pas les technocrates de Bruxelles qui vont nous dire ce qu'on a à faire.
Ah oui, je voulais qu'on revienne sur la lettre au gouverneur, au président de la République, la dernière lettre au gouverneur au président de la République, où il utilise un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche d'un banquier central. Il liste trois défis, François Villeroy de Gallo, au prochain président de la République en réalité. C'est un, comme vous l'avez dit Roland Gillet, le rétablissement des finances publiques, mais pourquoi ? Pour arrêter de faire porter le poids des déficits et de la dette sur les générations futures, et de rétablir une forme d'équilibre entre les générations. Il parle de la France comme d'un pays gérontocratique. Ouais. On n'a pas l'habitude d'entendre ça quand même. André, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on vit en France en gérontocratie ?
Évidemment, et en plus avec... Alors déjà, il y a un aspect purement technique auquel on réfléchit peu, avec l'augmentation bienvenue de l'espérance de vie. Tous les ans, le barycentre, c'est-à-dire le poids central du corps électoral, augmente de 3 mois.
On a basculé en 2025, les plus de 50 ans sont majoritaires depuis l'année dernière dans le corps électoral. Voilà. Donc évidemment, les politiques... Voilà.
Deuxième majorité, chose, on revient sur ce sujet. Aujourd'hui, les pays qui gagnent, les entreprises qui gagnent, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, c'est celles qui font des grands paris. Calculés, mais des grands paris. C'est le pari du véhicule électrique en Chine, c'est le pari de la tech aux États-Unis, c'est le pari des puces à Taïwan. Aujourd'hui, en France et en Europe, on aurait du mal à voir quels sont nos grands paris. On avait le Green Deal, que dès qu'on a la première crise, boum, on est en train d'évacuer. Et forcément, les grands paris, c'est pas l'apanage des gens qui ont un certain âge, parce que votre horizon, il est plus court terme que des pays jeunes qui forcément vont investir leur avenir. Et je pense que c'est le coup de pied de l'âne, la lettre de François Villeroy de Gallo. Oui. C'est à la fois le coup de pied de l'âne au président de la République pour montrer que son grand projet de réforme des retraites, bah, ça a fait pchit. Et le coup de pied de l'âne également à notre Premier ministre qui quand même... a réussi à se maintenir parce que, bah, en fait, il a finalement complètement fait des concessions.
Lâché sur tous les efforts. Ça...
Et donc je pense que c'est... Oui, peut-être que ça peut sembler anecdotique, mais je pense que c'est aujourd'hui le vrai sujet. Et ça ne va que nous... En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on ne s'adresse pas à ce sujet avec du courage politique et qu'on l'explique, eh bien, on va faire le lit des extrêmes.
Non, mais
et qu'on ne se sortira pas des finances publiques si on ne change pas ça radicalement.
Non, mais il faut qu'ils disent comment on le fait, parce que, je veux dire...
Oui, c'est facile.
Assez dire les finances publiques, ça, dans toutes les lettres des gouverneurs, ils disent, mais il faut juste dire comment, exactement, voilà, c'est tout. Quant à la lutte intergénérationnelle, il faut qu'ils disent comment on va lutter. C'est en augmentant les taux d'emploi à tous les âges de la vie, et notamment aux âges seniors, c'est tout.
Voilà. C'est son troisième défi, hein, c'est le défi de l'emploi et de la qualité de l'emploi.
Voilà,
c'est
tout,
ça suffit. Les seniors plus longtemps.
Je voudrais juste revenir avant, parce que c'est pas...
Sur le sujet de l'âge de la retraite.
Le problème de la Banque Centrale, c'est pas un problème seulement de coordination entre les intérêts. Il y a un problème européen, qui est le niveau des taux réels, qui est trop élevé par rapport... Voilà,
je suis bien d'accord.
Il faut s'attaquer à ça, il faut qu'Emmanuel Moulin le dise à Madame Schnabel.
Oui, mais.
Parce que c'est elle la plus virulente.
Vous avez vu qu'il y a 3 ou 4 membres du board hier qui ont dit qu'il fallait augmenter les taux. Hein.
Non, mais quand vous dites ça, parce que ça, vous avez entièrement raison, ça se décidera quand même à Francfort, et ça se décidera.
Je suis d'accord.
Entre ces deux-là, ça se décidera par un vote avec le nombre de pays.
Je suis d'accord.
Chacun y est, et c'est celui qui aura la majorité. Et il y en a un qui va rentrer frustré dans son pays en disant moi j'aurais voulu des taux plus bas, et moi j'aurais voulu des taux plus haut.
Oui, mais est-ce que
c'est ça aussi qui ne va pas? Parce que Mais imaginez que ce que vous dites est juste, et c'est vrai que c'est correct par le côté, il faut bien entendu pouvoir avoir quelqu'un qui porte le message, mais il n'en reste pas moins que vu les disparités entre les pays, qu'elles soient au niveau fiscal ou autre, même si vous vouliez vous accorder aujourd'hui à dire voilà le meilleur taux optimal, il y en a qui vont sortir gagnants, il y en a qui vont sortir perdants, parce que la situation économique n'est pas du tout la même et n'impose pas les mêmes taux d'intérêt réels. Et ça, cette coordination est importante.
Il faut quand même un discours politique européen, comme Mario Draghi l'a eu.
Et
ce que j'aimerais,
Europe, hein,
puisque Raphaël a demandé quel est le principal défi d'Emmanuel Moulin, c'est de dire ça.
De porter la voix de Jean-Pierre Petit à Francfort.
Et de se confronter à Madame Schnabel. Parce que s'il ne se confronte pas, il tient un discours policé, comme d'habitude.
Il y a un aspect leadership qui est essentiel. C'est ça que les parlementaires doivent tester pendant ces auditions.
Pardon de revenir au sujet de la discussion qui est celle de la gérontocratie en France.
Mais il y a deux points pour moi qui sont importants. Et André l'a dit, c'est on se rend compte que ça augmente de 3 mois chaque. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ? Finalement, on a un ARP avec effectivement l'âge des gens. On sait, c'est d'ailleurs au niveau des retraites, un des enjeux qui est le plus prévisible si on accepte les gens qui nous rejoignent ou les gens qui nous quittent. On sait où on va. Donc là, forcément, on sait qu'on va nécessairement être dans beaucoup de
pays, vers vieillissement de la population.
Des problèmes. Un deuxième élément, c'est que il existe des zones géographiques qui n'ont pas le même problème pour une seule unique raison. Et regardez un peu ce que ça soulage. Alors, je n'ai pas dit que c'était bien, je vous dis juste que ça soulage le gouvernement américain ou le gouvernement hollandais. C'est quand vous avez un système de pension qui fonctionne par capitalisation, et vous n'avez pas ce problème sur le dos. Et au contraire, si la bourse passe bien, vous donnez du pouvoir d'achat à des gens parce que leur argent a été bien placé et a généré des profits qu'ils vont pouvoir aujourd'hui utiliser. Et beaucoup de gens ne comprennent pas aux États-Unis, à tort ou à raison, on ne parle pas de Donald Trump, on parle de façon générale, pourquoi des gens sont si sensibles parfois au milieu d'une petite ferme dans les au milieu des États-Unis.
Activité économique.
Ils sont agriculteurs parce qu'ils voient qu'ils gagnent parfois plus avec l'action qui est menée dans la croissance de leur économie, parce qu'ils en récoltent une bonne partie aussi dans leur fonds de pension. Et donc, clairement, ici, on a d'autant plus un débat important au niveau européen qu'on est essentiellement sur des systèmes de répartition avec des assurances complémentaires éventuellement, mais en tous les cas, sur les régimes traditionnels, que n'ont pas d'autres pays. Et un dernier point que je voudrais souligner, qui, moi, me paraît important, et de nouveau, vous l'aviez dit, tous les deux, au niveau de la France et au niveau des autres pays, dans la politique industrielle, on est quand même capable, quand on fait les choses ensemble, d'avoir un Airbus aujourd'hui qui a reçu moins d'argent public que n'a reçu Boeing dans le temps et qui est un vrai concurrent. Donc, on a quand même des capacités si on se met ensemble.
Allez.
Je pense que c'est très important de le rappeler.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Roland Gillet, André Lescroux-Pietri et Jean-Pierre Petit, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur toutes les plateformes, sur l'application BFM Business. Bien sûr, tout de suite, c'est BFM Entreprise spécial outils RH animé par Sandra Gondouin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, nouvel horaire, 9h30, 10h30, même endroit par contre, toujours l'antenne de BFM Business. Très bonne journée à toutes et à tous, à demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.